Chapitre 5. Une lettre de l'Alliance. Georges continua à venir régulièrement, mais il se garda néanmoins de laisser paraître aucune inquiétude. Il parlait à son ami avec sa gaieté ordinaire, restait assis auprès de son lit et tentait de sortir Tom de sa léthargie. Il s'efforçait aussi de rassurer Mrs. Halliday, qui, avec l'alerte Nancy, garde-malade tout à fait inappréciable, ne quittait plus la chambre de son mari. Il échoua. L'apathie de Tom ne se dissipait pas et le courage de Georgie allait en diminuant à mesure que ses craintes augmentaient. Elle aurait désiré appeler un autre médecin, chercher ailleurs quelque élément de tranquillité et de consolation, mais elle avait peur d'offenser Philippe comme d'alarmer son mari. Il en résulta qu'elle attendit. Sheldon n'avait-il pas assuré que la maladie de son mari était sans gravité? Quel motif pourrait-il avoir de la tromper? Un bol de bouillon était sur la petite table à côté du lit. Il y était depuis des heures sans avoir été touché. « Je me suis donné tant de peine pour cuisiner, » dit d'un ton de regret Mrs. Woolper, comme elle passait près de la petite table pour arranger le lit. « Et le pauvre Mr. Halliday n'en a pas pris une cuillerée. Le potage ne vaudra plus rien demain. Comme avec mes allées et venues continuelles, je n'ai rien mangé à dîner, je le ferai réchauffer pour mon souper. Rien ne va, Mrs. Halliday, car vous ne mangez pas non plus, et quant à un dîner pour Mr. Sheldon, autant vaudrait jeter la viande dans la gouttière. Il y aurait au moins une chance que les chats en profitent. » Philippe a donc perdu l'appétit, s'enquit Georges. « Je dois le croire, Mr. George. Hier, j'ai fait rôtir un poulet pour lui et Mrs. Halliday. Ils n'en ont pas mangé une once à eux deux. C'était pourtant un joli poulet, bien tendre, cuit à point, avec du cresson frais tout autour. Il suffit d'une maladie pour en amener d'autres, bien sûr. De sa vie, je n'ai vu votre frère aussi abattu que maintenant. » « Non, répondit Georges d'un ton pensif. Philippe n'est ordinairement pas facile à abattre. » Le malade dormait en ce moment. Georges resta quelques minutes auprès du lit à considérer sa figure altérée. Puis il se tourna, se disposant à quitter la chambre. « Bonsoir, Mrs. Halliday. J'espère que le pauvre vieux Tom sera un peu mieux quand je reviendrai demain. » « Je l'espère, » répondit tristement Georgie. Elle était assise près de la fenêtre, regardant le ciel qui, peu à peu, devenait sombre. Le soleil se couchait dans des nuages humides chargés de pluie, orageux, et à la clarté de ses derniers rayons succéda une sorte de nuit lourde, grise, qui emplit démesurément l'espace. Cette figure immobile près de la fenêtre, ce ciel couvert roulant ses tristes nuages, cette chambre presque noire, encombrée de fioles, formait un tableau lugubre qui demeura longtemps présent aux yeux de celui qui le contemplait alors. Georges et Nancy sortirent de la chambre ensemble, la vieille ménagère portant la tasse de bouillon. « Il semble être en mauvais chemin ce soir, Nancy, » dit Georges en désignant la chambre du malade. « C'est vrai, » répondit gravement la vieille femme, « quoi qu'en puisse penser Mr. Philippe. Je n'ai pas l'intention de rien dire contre la science de votre frère, car un homme aussi travailleur que lui doit certainement être très savant, et si j'étais malade moi-même, je me confierais entièrement à lui. J'ai entendu dire à Barlingford que les avis de mon maître étaient aussi bons que ceux d'un médecin en titre. Cependant, Mr. George, je ne crois pas qu'il s'entende à la maladie de Mr. Halliday aussi bien qu'il le faudrait. » « Pensez-vous que Tom soit en danger ?» « Ce n'est pas ce que je veux dire, Mr. George, mais je pense que son état va en s'empirant au lieu de s'améliorer. »« murmura doucement George. « Si Halliday venait à mourir, Philippe aurait une bonne chance d'épouser une femme riche. »« Mr. George, » s'écria d'un ton de reproche la vieille femme, « n'ayez pas même une pareille pensée quand le pauvre homme se débat peut-être contre la mort. Je suis sûr que Mr. Sheldon n'y pense pas, lui. » Il m'a dit avant l'arrivée de Mr. et Mrs. Halliday que lui et Miss Georgie avaient depuis longtemps oublié le passé. Oh, alors c'est différent. Philippe dit volontiers ce qu'il pense, et pense toujours ce qu'il dit, répondit Georges. Et sur quoi il descendit l'escalier, laissant Nancy libre de le suivre avec son plateau. Il marchait dans l'obscurité en riant en lui-même, comme à une bonne plaisanterie. Il rejoignit son frère dans son laboratoire. Philippe y était occupé à un travail en plâtre. Le dentiste leva la tête au moment où Georges entrait, et il sembla qu'il eût préféré en ce moment-là ne point le voir. « Eh bien, dit Georges, au travail, comme toujours, les clients viennent sans doute. »« Oh, diable les clients !» répondit Philippe avec un rire amer. « Ce n'est pas une commande que j'exécute, c'est seulement une expérience. »
« Vous paraissez aimer les expériences, Philippe, » dit Georges en s'asseyant près de la table où son frère travaillait à la lumière du gaz. Éclairé par cette lumière, le visage de Sheldon paraissait pâle, ses traits étaient tirés, ses yeux cernés par l'insomnie.
Georges resta quelque temps à le considérer en silence, puis il tira son porte-cigare. « Cela ne vous fait rien que je fume ici ?»«
Rien, absolument. Vous êtes le bienvenu, si cela vous amuse de me voir travailler au montage d'une mâchoire inférieure. »«
Ah, c'est une mâchoire inférieure. J'aurais cru que c'était quelque débris de vieux château. Non, Philippe, je ne tiens pas à suivre votre travail, mais je désire vous parler sérieusement. »«
À propos de quoi ?»
De ce pauvre diable qui est là-haut. Pauvre Tom, il ne va pas bien, Philippe.
Vraiment, savez-vous que vous tournez tout à fait au médecin, Georges? Je n'aurais jamais cru que vos recherches dans les vieux parchemins et les registres des paroisses eussent pu vous initier au mystère de la science médicale, se moqua le frère aîné.
Je ne connais rien à la médecine, mais j'ai assez de jugement pour être certain que Tom est à peu près aussi mal qu'il puisse être. Ce que je ne puis m'expliquer, c'est qu'il ne prenne aucun remède. Il reste là, couché. C'est une étrange maladie que la sienne, Philippe.
Je n'y vois absolument rien d'étrange.
Est-ce votre avis? Ne pensez-vous pas que les circonstances au moins sont étranges? Un homme vient chez vous fort et bien portant, tout à coup, il tombe malade et sa situation devient pire de jour en jour.
Cela n'est pas vrai, Georges. Tout le monde connaît la cause de la maladie de Tom. Il est resté un soir avec des vêtements mouillés et s'est absolument refusé à en changer. Il a été pris d'un rhume suivi d'une fièvre. Voilà le seul mystère de cette affaire.
Cela paraît simple, c'est vrai, mais à votre place, Philippe, je ferai venir un autre médecin.
Cela regarde Mrs. Halliday, répondit froidement Sheldon.
Elle sait que si elle met en doute mes talents, elle est libre d'appeler qui lui conviendra.
« Et maintenant, Georges, en voilà assez. J'ai eu assez d'inquiétude à ce sujet pour que vous ne veniez pas vous ingénier à m'en rebattre les oreilles. »
Ils causèrent encore quelques instants de choses et d'autres, mais la conversation ne tarda pas à tomber, et dès qu'il eut achevé son cigare, Georges se leva pour se retirer.
« Bonsoir, Philippe. Si jamais la fortune vous sourit, j'espère que vous me ferez une bonne part. »
Cette remarque ne paraissait en aucune manière se rattacher à leur précédente conversation. Cependant, l'aîné n'en parut pas surpris.
« Si jamais quelque affaire tourne bien pour moi, Georges, vous trouverez en moi un bon ami. »
Georges prit congé et sortit. Il s'arrêta un moment au coin de la rue pour considérer la maison de son frère. « Pauvre Tom, soupira-t-il. Pauvre Tom. » Philippe resta une partie de la nuit à travailler comme les nuits précédentes. Lorsqu'il eut fini, un peu avant minuit, il monta à la pièce commune, au salon, comme on l'appelait par courtoisie. Les domestiques étaient couchés, car il n'y avait pas de veille régulière établie auprès du malade. Mrs. Halliday reposait sur un sofa dans la chambre de son mari, et Nancy couchait dans un cabinet à côté, toujours prête à réagir au moindre bruit. Un silence complet régnait dans la maison. Philippe se promenait dans le salon, réfléchissant. Au bout de quelque temps, il s'arrêta devant le foyer et se mit à regarder les lettres qui avaient été déposées sur le marbre de la cheminée. Les lettres adressées à Halliday lui étaient envoyées du comté d'York. Philippe les prit l'une après l'autre.
Toutes paraissaient être des lettres d'affaires. Pour la plupart, elles portaient des timbres de province, mais l'une d'elles avait été mise à la poste à Londres. Sheldon l'examina avec une attention particulière. C'était un document officiel apparemment. À travers l'enveloppe, on apercevait l'entête de l'Alliance, la compagnie d'assurance sur la vie. « Je suis curieux de savoir si cette affaire est en règle », pensa Sheldon en tournant machinalement la lettre entre ses doigts. « Je ferais peut-être bien de m'en assurer. Le timbre de la poste de Londres date déjà de 3 semaines. » Il resta quelques moments indécis, puis il alla à l'armoire où l'on rangeait le bois, la théière, les tasses, les bouilloires. Il y prit une petite théière en métal dont il se servait lorsqu'il voulait offrir un grog à un ami. Après y avoir versé un peu d'eau, il la posa sur le feu devant lequel il s'assit et le raviva. L'eau ne tarda pas à bouillir, et Sheldon, ayant posé une tasse sur la table, y versa le contenu de la théière. Il mit sur cette tasse la lettre de la compagnie d'assurance, avec la partie collée en dessous, puis il recommença à se promener dans la chambre. Sa promenade dura 10 minutes à peu près. Il revint vers la table, prit la lettre, l'enveloppe s'ouvrit facilement, et Sheldon put à son aise examiner l'affaire de son ami. La lettre de la compagnie L'Alliance était un simple avertissement. Elle informait le destinataire que la prime à payer pour une assurance de 3 000 livres sur la vie de Thomas Halliday arrivait à échéance à un jour indiqué, après lequel il y aurait 21 jours de grâce, et que, faute de paiement avant l'expiration de ce délai, la police d'assurance se trouverait annulée. Les lettres pour Halliday étaient arrivées avec du retard. Elles avaient été adressées à la ferme de Hailey, d'où elles avaient été renvoyées par le nouveau propriétaire à la mère de Georgie, à Barlingford. Celle-ci les avait gardées pendant plus de 8 jours, espérant le retour prochain de son gendre. Ce fut seulement lorsque Georgie lui avait annoncé la maladie de son mari et l'impossibilité où il était de se mettre en route, qu'elle s'était décidée à lui retourner sa correspondance. C'est ainsi que les 21 jours de délai de grâce n'avaient plus que 24 heures à courir lorsque Philippe ouvrit la lettre de son ami. « Ceci est sérieux, murmurait-il, la lettre décachetée dans les mains. Il y a 3 000 livres qui dépendent du pouvoir que cet homme aura ou n'aura pas de remplir un chèque. » Après quelques minutes de réflexion, il plia la lettre et la recacheta avec le plus grand soin. « Il ne serait pas bon de l'ennuyer de cela ce soir, » pensa-t-il, « et quoi qu'il puisse en résulter, il faut attendre jusqu'à demain. »